avis critique.
Raphaël Bourgois.
Les idées au banc d'essai, avis critique explorent toutes les disciplines et les indisciplines. Ce soir, comme chaque semaine, deux essais sous les feux de la critique, deux livres qui interrogent la notion d'identité française et partagent un point de vue. La France est un pays d'immigration qui ne s'assume pas et de ce fait exclut une partie de sa population. Une émission débat donc. Dans La France telle qu'elle est, publiée chez Fayard, Laurent Mucchielli se propose de répondre au discours ambiant de défiance et même de rejet des immigrés et des musulmans. Le sociologue parle d'une nouvelle pensée nationaliste à la mode à laquelle il entend opposer la vérité des chiffres et des faits. C'est aussi cette pensée et sa diffusion qu'interroge Maboula Soumaoro en partant d'une réflexion autobiographique dans Le Triangle et l'Hexagone publié à La Découverte. Cette spécialiste des études africaines-américaines et de la diaspora noire africaine propose une conversation entre la petite et la grande histoire pour réfléchir à ce que peut être l'identité d'une femme noire en France au XXIe siècle. Et en studio pour débattre de ces sujets qui étaient d'actualité avant qu'on ne soit confiné par le coronavirus, Géraldine Mosna-Savoie de France Culture. Bonjour Géraldine.
Bonjour.
Et Joseph Confavreux de Mediapart. Bonjour Joseph.
Bonsoir.
Je vous propose de commencer par le livre de Laurent Mucchielli, La France telle qu'elle est, sous-titré pour en finir avec la complainte nationaliste, qui est donc publié chez Fayard dans la collection Raison de plus. Laurent Mucchielli est sociologue, il est directeur de recherche au CNRS, au sein du laboratoire méditerranéen de sociologie, et il enseigne à l'université Aix-Marseille en sociologie et droit pénal et en sciences criminelles. Il est plutôt donc spécialiste de ces questions de sécurité. Il a par exemple créé en 2011 un observatoire de la délinquance dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et il a aussi récemment publié chez Armand Collin une sociologie de la délinquance. Et vous êtes filmé enquête sur la vidéosurveillance. Ce dernier essai sort donc un petit peu de cette spécialité, même si on le verra, il est aussi question de la délinquance. La France telle qu'elle est part en effet d'un étonnement face à ce que Mucchielli appelle la passion française pour le foulard islamique. Comment cette question, apparemment simple et relevant de la liberté individuelle et de la vie privée, est-elle devenue une affaire publique nationale et pourquoi seulement en France? C'est un point de départ qui l'amène plus largement à se pencher sur les questions liées à l'immigration, à l'islamophobie, terme dont il revendique la pertinence et qu'il justifie malgré les débats, à la montée d'un discours mythologique à la fois sur la nation et sur la laïcité. C'est un essai engagé contre ce que la sociologie estime être la montée d'un discours nationaliste raciste et qui fait le pari de recourir systématiquement aux résultats des recherches de sciences sociales menées ces dernières années. En cela, c'est un livre qui apporte moins de connaissances nouvelles qu'il ne propose une synthèse. Le propos est combatif, à trop s'éloigner sur la question de l'immigration au sens large, des données connues. On valide indirectement un discours national populiste qui a le vent en poupe et qui se trouve de plus en plus légitimé par certaines positions qualifiées d'islamophobes, détenant honnête d'un discours sur la laïcité et le féminisme. Encore une fois, c'est un livre qui fait débat. Joseph Confavreux, en tout cas qui participe au débat, qui prend parti dans un débat qui a lieu en ce moment et qui fait surtout le pari du fact-checking, comme on dit, c'est-à-dire de la vérification des faits contre ce qu'il appelle ce nouveau nationalisme.
Oui, en ça, c'est un livre qui prête guère le flanc à la critique, car il est signé, vous l'avez dit, d'un très bon sociologue. Il est rempli de chiffres utiles, de dénonciations nécessaires, d'arguments sensés. Il veut donc montrer à quel point le discours de ce qu'il appelle la complainte nationaliste entonnée par des Elisabeth Lévy, par exemple, et qui se présente comme du bon
là,
sens,
avec son chef de causeur,
est en fait du non-sens. Si on regarde la réalité des chiffres sur l'immigration, la réalité de ce qu'est l'islam en France, c'est un livre qui a l'avantage de pas non plus cantonner la complainte nationaliste aux racistes référencés, mais à montrer que ça sort bien de ces cercles, qu'il y a au fond une lepénisation des esprits, hein, il emploie plusieurs fois le terme. C'est un livre qui, vous l'avez dit, veut donner des armes, mais je sais pas si, comme vous, je dirais que c'est un livre de combat, enfin c'est un livre de combat, mais qui est parfois désarmant parce que on voit pas exactement à qui il s'adresse, c'est-à-dire qu'il prêche beaucoup les convaincus. C'est-à-dire que si c'était un discours qui était tenu au journal de TF1 à 20h, oui, comme une réponse à Zemmour, c'est vrai que moi je me souviens que vous aviez parlé ici du livre de Gérard Noiriel, hein, qui comparait l'islamophobe Zemmour à l'antisémite Drummond, et Noiriel disait « On ne combattra pas Zemmour, pas davantage que Trump, en expliquant qu'il dit n'importe quoi sur à peu près tous les sujets ». Et bah c'est un peu ça, c'est qu'on se dit bon c'est bien, il y a vraiment rien à dire, hein. C'est
bon,
bien
de démonter quelque chose, non, quand même.
C'est bien de démonter les faussetés de la complainte nationaliste. Encore une fois, comme objet, je me demande si, comme il y a quand même beaucoup de choses qu'on pourrait trouver soit en lisant François Héran, spécialiste de l'immigration, soit en allant sur Google, je sais pas vraiment si ça marque ce que ça veut faire.
Géraldine Mostasavoir.
Alors, je suis assez d'accord avec Joseph Convavreux. C'est vrai que je dirais pas que c'est un livre combatif dans la mesure où il dit des choses, en fait, qui sont déjà connues. C'est-à-dire que ce combat-là contre la complainte nationaliste avec ces chiffres-là sont déjà travaillés, peuvent déjà être trouvés, effectivement, par d'autres moyens, avec d'autres livres sur Google. Donc, je suis en fait assez étonnée de l'étonnement de Laurent Mukeli de dire, en fait, je m'étonne que le voile prenne autant de place. C'est-à-dire que c'est quand même un étonnement auquel on est maintenant habitué. En revanche, là où je trouve quand même ce livre salutaire, c'est que aller sur Internet, rassembler tout un ensemble de livres, ça suppose du temps et il l'a fait. Alors effectivement, la question se pose toujours de savoir à qui on s'adresse. J'imagine bien pas à Éric Zemmour, pas à la fachosphère forcément, mais néanmoins, je me dis, il peut s'adresser à moi, par exemple, à savoir me donner des chiffres que j'ai pas forcément sous la main, faire un travail de recherche, de recension, de recoupement d'informations que je n'ai pas fait. Et je trouve que la manière dont se déploie ce livre en quatre parties, où il reprend vraiment dans la première partie l'histoire de l'immigration en France, dans la deuxième partie, les raisons réelles ou fantasmées de l'immigration, je vais vous déplier donc la structure, dans la troisième partie, la menace que pourraient constituer les immigrés, c'est-à-dire l'idée que ce seraient forcément des terroristes ou des délinquants, et enfin analyser cette idée d'un roman national qui serait vraiment créé de toutes pièces avec le mythe fondateur des Gaulois. Je trouve que ces quatre parties-là ont le mérite de structurer les idées reçues, de les prendre à bras-le-corps et surtout de faire quelque chose que je trouve appréciable, à savoir de les prendre au sérieux et de les démonter. Et autre chose qui n'est pas négligeable, c'est que c'est un livre qui peut être, on pourrait dire, un peu ennuyeux à lire. En termes d'expérience de lecture, c'est quand même important de le mentionner. Et au fond, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, en fait, à me plonger dans ces chiffres, à avoir un rappel. J'ai trouvé qu'en fait, c'est ce travail de vérification, de clarification, de recoupement était revigorant.
C'est un livre pour période de confinement, effectivement. C'est un ennui utile qui permet de, vous avez raison Géraldine, de remettre à plat, face à quand même ce qui est un rouleau compresseur d'idéologie, de lieux communs, de fausses idées, de remettre un peu de sociologie dedans, et ça on peut que lui en être louable. Simplement, si on fait ça, moi j'aurais aimé avoir une synthèse de premier plan. Et là, moi, il me semble qu'il manque deux choses. Des fois, il se confronte pas, non pas évidemment à quand Zemmour dit n'importe quoi, mais il me semble qu'il y a des fois des faits qui iraient un peu à l'encontre de ce qu'il dit, auxquels il se confronte pas vraiment. Je prends l'exemple de sa partie sur le salafisme. On a parlé ici du livre de Bernard Rougier récemment, livre collectif, sur lequel moi j'ai énormément de critiques à faire, mais il me semble qu'évacuer complètement ce que dit par exemple quelqu'un comme Bernard Rougier en disant le salafisme, de toute façon, ça ne mène pas au terrorisme, ce n'est pas un terrorisme, alors qu'en fait on sait bien que c'est ni un sas, ni un rempart, mais qu'au fond il y a des portes tournantes entre le salafisme et le terrorisme. Voilà, il a écarté les faits qui lui auraient été un peu plus peut-être difficile de contester. Et deuxièmement, moi j'aurais bien aimé avoir une synthèse un peu plus actuelle, précise, c'est-à-dire que autant sur la partie, je suis d'accord sur la délinquance qui est son domaine d'étude, c'est très bien, là vraiment on a une partie solide, autant sur l'immigration, par exemple sur les réfugiés, il reprend les thèses du chercheur Jérôme Valouy sur le grand retournement du droit d'asile, comme quoi la France aurait été généreuse avant et maintenant serait absolument pas généreuse.
Il y aurait une rupture, effectivement.
Il y aurait une rupture. Bon, en fait, tout ce que montre la jeune génération qui travaille sur l'OFPRA, emmenée par exemple par des chercheurs comme Karen Coca, montre que c'est pas une bonne grille de lecture, qu'au même moment où on accepte tous les boat people par centaines de milliers, c'est le moment où on invente le fraudeur, le demandeur d'asile, qui à l'époque c'est la figure du Zaïrois. C'est qu'on est aussi sur des données qui sont empiriques mais un peu vieillies, c'est-à-dire c'est les livres, c'est pas les thèses actuelles, c'est pas les articles, c'est pas la recherche très contemporaine. Et moi je regrette un peu ça, c'est-à-dire que je pense que ça aurait été plus fort d'avoir une synthèse de haut vol.
Je suis d'accord avec Joseph là-dessus, c'est-à-dire que effectivement, ça n'est pas à la pointe de la recherche, mais on pourrait se demander est-ce qu'on attend vraiment ça de ce livre-là. En fait, c'est aussi de rappeler des questions classiques, de revenir sur des faits, de revenir sur des statistiques, même un peu vieillies, mais quand même.
Les questions classiques qui sont posées, c'est la France subit-elle une immigration massive ? Voilà. Est-ce que les migrants viennent principalement en Europe ? Est-ce qu'ils y viennent pour profiter des systèmes de protection sociale ? Est-ce que les immigrés sont avant tout des non-diplômés ? Enfin voilà. Autant de questions que démonte Laurent Mukeli par les chiffres et par l'exemple.
Qui reviennent tout le temps et dont on a besoin d'avoir des chiffres peut-être vieillis, mais quand même encore d'actualité, pas à la pointe, mais encore d'actualité. côté. Mais il y a effectivement une limite à ce travail-là, c'est que faire une synthèse, ben forcément on est limité, on n'est pas à la pointe. Et puis en plus, on est obligé, eh ben, de raccourcir certaines choses, donc du coup d'enfermer le champ d'analyse. Et puis surtout, moi j'ai eu un soupçon à un moment donné en lisant ce livre, parce que moi je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions-là et je lis très peu de livres ou d'études sur ces domaines de recherche. J'ai eu ce soupçon de me dire que, à force d'utiliser les chiffres, c'est-à-dire que comment lui les utilisait, c'est-à-dire de quelle manière lui il les convoquait, à quelle étude il puisait et pas à telle autre. Et c'est ça qui m'a un peu manqué, moi, c'est-à-dire une sorte d'assise méthodologique et conceptuelle qui me permettrait de dire, ok, ce livre est fiable, je peux complètement m'y fier.
Oui, Joseph Couffre, parce que l'une des thèses de Laurent Mucchielli, et la thèse peut-être importante du livre, c'est, si vous me permettez d'employer ce mot, la contamination des idées nationalistes, des idées qu'il appelle islamophobes. Peut-être qu'il faudra revenir aussi sur l'emploi de ce terme qu'il justifie, et dont il refait la généalogie, hein, puisqu'on dit souvent que l'islamophobie a été inventée soit par la Roménie pour critiquer ceux qui justement critiquent la révolution islamique en Iran, soit par les frères musulmans comme une arme finalement politique pour affirmer l'importance de l'islamisme politique. Lui, il remonte un peu plus loin, il montre que ça existe déjà dans l'Algérie dite française, en tout cas dans les colonies françaises en Algérie au tournant du 19e et du 20e siècle. Mais fermons cette parenthèse. L'idée de Laurent Mucchielli, c'est de dire que ce n'est pas seulement limité au cercle islamophobe, mais que on retrouve chez des gens de bonne volonté, qui sont probablement antiracistes, qui défendent la laïcité, des thèses ou en tout cas des discours qui rejoignent, en tout cas qui servent d'idiot utile, pour reprendre cette expression que lui n'utilise pas, des nationalismes.
Oui, ce qui montre, c'est que au nom de la défense d'une certaine idée de la laïcité, mais souvent trompeuse, d'une certaine idée de la République, mais souvent rigide, le discours de la complainte nationaliste touche des gens dont on aurait pensé que, a priori, ils étaient préservés parce que eux-mêmes ne se sentent pas racistes, ne sont pas racistes au sens individuel du terme, mais finalement épousent des cadres de pensée qui en viennent à produire des effets structurels de nature raciste, c'est-à-dire à désigner des populations, et notamment les Arabes musulmans, comme les principales fauteurs de troubles de la société française. Donc moi je pense que c'est un livre qui est tout à fait fiable par rapport à ce que disait tout à l'heure Géraldine, c'est-à-dire que vraiment tous les chiffres qui montrent sont établis, sont solides, et c'est nécessaire de dire ça. Mais moi j'irais un peu plus loin sur cette idée de synthèse. C'est-à-dire que, est-ce que la synthèse c'est ce dont on a besoin aujourd'hui? C'est-à-dire que, alors je vais pas faire de procès d'intention, mais rappelons que Raison de Plus est une collection dirigée par Najat Vallaud-Belkacem, et on avait parlé ici du livre de Xavier Rago qui s'appelle Civiliser le capitalisme. C'était pareil, c'était une bonne synthèse dans cette même collection, mais on a un peu l'impression des fois d'avoir le programme de François Hollande en 2012. C'est-à-dire que, un, on n'y croit plus, et deux, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, il faut peut-être un peu plus de radicalité si on veut affronter les problèmes, et pas simplement de la synthèse gentillette et un peu vieillie.
Mais est-ce que c'est vraiment le but de Laurent Mucchielli d'être radical? Je crois que justement, il veut prendre au sérieux ces thèses-là, et non pas pour être radical, mais au contraire, juste pour clarifier, en fait. Je pense qu'on ne peut pas demander à Laurent Mucchielli un travail que lui-même n'avait peut-être pas envie de faire dans ce livre-là. Mais par contre, j'aurais juste revenir sur une limite que je trouve à la fin, c'est-à-dire qu'à la fin du livre, dans la conclusion, il nous dit « L'enjeu de mon livre était de savoir pourquoi il y avait un tel succès, en fait, de cette complainte nationaliste. » Et finalement, eh ben, il nous a pas du tout parlé de ça dans son livre. Il est plutôt revenu sur ce qui fait que, en fait, cette complainte-là a été fausse, mais pas sur ce qui fait qu'elle a du succès. Et il nous parle d'une lepénisation des esprits qui trouverait son corollaire dans les médias. Donc, il accuse quand même les rédacteurs en chef de laisser passer ce genre de débat, ce qui explique aussi, comme vous le disiez, Raphaël, que effectivement, ça ne touche pas que les gens qui votent Rassemblement National, mais aussi en fait que ça imprègne les discussions, que c'est des manières d'orienter le débat qui sont quand même d'ordre extrême, d'extrême droite. Mais il dit juste l'eupénisation des esprits. Et ça, je trouve que là, on reste trop vague. Alors peut-être parce que c'est effectivement quelque chose de difficile à capter et à expliquer. Et il convoque les études, les recherches du politologue Vincent Tibéri, qui sont vraiment passionnantes à cet égard. Voilà, mais je trouve qu'on reste un peu sur notre fin, sur l'explication du succès de ces thèses-là, et on a envie d'en savoir plus de ce côté-là.
Tout comme il y a aussi un chapitre, Joseph Confavreau, on en parlait un petit peu, mais peut-être qu'il faut développer, parce que c'est aussi une idée assez forte où il renvoie dos à dos les deux mythes constitutifs de la France, en tout cas c'est les termes qu'il emploie, qui sont ceux du nationalisme pour la droite et de la laïcité pour la gauche.
Oui, mais encore une fois, là, on peut prolonger ce qui vient d'être dit, parce que non seulement c'est un livre qui donne pas complètement les clés de son étonnement, C'est-à-dire qu'effectivement, on comprend pas exactement pourquoi il y a un tel succès. Et deuxièmement, puisque ça se présente comme un livre de combat sur la question du roman national, hein, qui fait toute la dernière partie, on voit bien comment fait Mukeli. Il a raison, il rappelle d'ailleurs, c'est intéressant, moi je savais pas que le fondateur du site F de Souche, donc pour Français de Souche, porte en médaillon une figure de Vercingétorix. Et il rappelle qu'au 19e siècle, la Gaule et Vercingétorix n'étaient pas du tout des figures de la nation. Donc il montre bien comment on a composé un roman national. Mais encore une fois, on est sur la dénonciation du roman national crispé, rigide, fermé. Prenons le livre collectif dirigé par Patrick Boucheron, Une histoire mondiale de la France, et plutôt proposons un autre imaginaire. Gardons l'histoire, réapproprions-nous une histoire de France telle qu'elle existe, c'est-à-dire sans la nier, mais ouvrons-la à tous les vents. Voilà, au moins, ça, pour moi, c'est plus davantage du combat en termes de roman national que les arguments forts qu'il prétend donner à la fin, qui sont quand même, dont on se dit, vers qui ça va porter, de dire que Zemmour c'est faux. Il y a quand même un argument, moi, qui me semble intéressant pour c'est de dire, c'est vrai que si on confronte ces discours de la complainte nationaliste, allez jusqu'à votre terme, qu'est-ce que vous voulez? Et là, c'est vrai que très souvent, et on voit bien dans les médias, les Zemmour, tout ça, sont jamais confrontés. Qu'est-ce qu'ils veulent? À part renvoyer tous les gens qui auraient des origines immigrées chez eux, mettre un mur autour de Barbès ou une enceinte autour de Marseille. En fait, jamais on les confronte à ce serait quoi les conséquences de votre discours si on l'appliquait. Et ça, je pense que c'est l'endroit où, pour moi, dans les arguments de fin, ils touchent un point de pas seulement dire, ils racontent n'importe quoi, mais regardez qu'est-ce que ça pourrait signifier concrètement ce que vous êtes en train de formuler.
Vous dites, Joseph Confavreux, que c'est un livre qui peut-être est un peu à côté de sa cible, ou en tout cas qui ne fait pas œuvre d'utilité autant qu'il le pourrait. Pourtant, on pourrait se dire qu'aujourd'hui, il y a un tel confusionnisme dans ce débat sur l'immigration, il y a telle manipulation de la vérité et des chiffres, que proposer un livre comme celui-ci, même s'il n'apporte pas évidemment de connaissances à proprement parler nouvelles, s'il n'est pas la pointe, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça a une forme d'utilité, Géraldine Mosna.
Ah bah moi, je trouve que ce livre, il est très, très, très utile et je comprends pas en fait cette attaque de Joseph, parce que en fait, on peut pas attendre d'un livre ce qu'il n'a pas envie de faire. Et ce dont l'auteur ne se donne pas pour but d'être radical, il se donne pas pour but d'ouvrir, puisque on parle de Patrick Boucheron ou d'autres travaux qui ont été faits, ces travaux-là existent. Il veut pas faire ça, je pense. Il veut vraiment faire un travail. Alors que le travail de synthèse soit un travail limité en soi, soit de fait un peu vieilli, daté, pourquoi pas? Mais je trouve que c'est pas vraiment une critique qu'on peut adresser à un livre. C'est comme si je lisais Marcel Proust en lui disant t'as pas fait du Victor Hugo. Ah bah oui, effectivement, on peut pas demander à quelqu'un de faire un travail qu'il n'a pas voulu faire.
Ça me semble pas tout à fait... J'aimerais pas qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit. Ce livre est utile, mais il pourrait être plus utile s'il était plus radical, plus actuel. Je prends un autre exemple. Sur l'immigration...
Mais moi, je crois pas.
Il fait le truc classique, c'est-à-dire de dire, regardez comme les immigrés ont amené des choses à la France. Charles Aznavour dans la chanson, Marie Curie dans la science, je sais pas qui dans le sport. Voilà, cette thématique de l'apport, elle est intéressante. Mais aujourd'hui, il me semble que ça peut être plus radical et plus utile, d'une certaine manière, de prôner la liberté de circulation, parce qu'on sait bien que les immigrés sont piégés à l'intérieur, une fois qu'ils ont réussi à migrer, alors qu'on pourrait essayer, c'est le Gisti qui dit ça depuis des années, un système de noria et de migration beaucoup plus alternée. Voilà, moi c'est juste que je pense que la pure synthèse, aujourd'hui, ça ne marche plus trop, et que donc, ça peut être très bien d'avoir une synthèse utile, ça peut être un peu plus intéressant, et c'est pas de dire faites autre chose, d'avoir une synthèse un peu plus radicale.
Le mot de la fin, Géraldine, moi, c'est savoir.
Ben, moi, je pense que ce livre-là ne veut pas forcément être radical et je pense effectivement que la radicalité n'est pas forcément tout le temps utile et que ce travail-là est utile en tant que tel et que les arguments, des chiffres, des recensions, un travail de clarification, eh ben, ça peut être quelque chose de très fort sans être du côté de la radicalité.
Oui, mais là où votre comparaison est fausse, c'est que et Proust et Victor Hugo sont radicaux. Donc voilà, c'est pas,
bon,
pas
ça,
de comparer.
À voir.
Bon, bah écoutez, on en parlera dans une autre émission. Laurent Mukeli, La France telle qu'elle est, pour en finir avec la complainte nationaliste, c'est donc publié chez Fayard.
France Culture, avis critique,
Raphaël Bourgois.
Notre histoire est compliquée, elle est culturelle de triste intensité. Écrasé par les contradictions, à mi-chemin entre demain et les traditions. À part les exceptions, les autres sont victimes. Les hommes, bon, ce n'est pas que dans les films. On n'a pas tous les mains qui traînent, je l'ai dit à ma fille. Et si ça t'arrive, il faut qu'ils comprennent. Certains font de leur mieux, tu sais que j'existe. Je me battrai jusqu'à ce que ça suffise. Seul on touche aucune prouesse. Derrière un grand homme, il y a toujours une déesse. Entre nos femmes, nos filles et nos mères, chaque jour la vie éphémère. J'ai envie de dire qu'on vous aime, qu'on vous aime. Dans le monde on n'est pas tous au même siècle. La victoire c'est toute libérée des mêmes règles. Des milliers d'années de chemin de croix. Si difficile qu'on fête vos droits. Maintenant c'est partir ou être libre. Peut-être rester et tenter de vivre quelque chose. Avoir ce qu'on veut n'est pas facile. Tu prends le pouvoir mais reste fragile. Les hommes sont durs mais et la société. Comment rester pur? Qui va t'y aider? Hein? Qui va t'y aider? Entre nos femmes, nos filles et nos mères, chaque jour la vie éphémère. J'ai envie de dire qu'on vous aime, qu'on vous aime. Entre nos femmes, nos filles et nos mères, chaque jour la vie éphémère. J'ai envie de dire qu'on vous aime, qu'on vous aime.
Tendrement, le dernier titre d'Oxmo Puccino dévoilé le 8 mars dernier, dont les droits iront à la Maison des Femmes de Saint-Denis. Voilà pour la transition vers la seconde partie de l'émission. Je vous propose de nous pencher maintenant sur l'essai de Maboula Soumaoro, Le triangle et l'hexagone, réflexion sur une identité noire publiée à La Découverte. Maboula Soumaoro est maîtresse de conférences à l'université de Tours en langue et littérature anglaise et anglo-saxonne. Ses travaux portent sur les études africaines-américaines et de la diaspora noire africaine. Elle préside aussi l'association Black History Month qui est dédiée à la célébration de l'histoire et des cultures noires. Fille de l'Hexagone et de l'Atlantique, mon ascendance, mes origines, mes trajectoires et ma propre histoire m'inscrivent dans l'immensité culturelle, politique et intellectuelle de l'Atlantique noir, un espace géographique profondément façonné par l'histoire. Ce sont les premières lignes de cet essai qui annonce sa dimension autobiographique. L'autrice revient sur son parcours personnel et universitaire, ses pérégrinations transatlantiques entre la Côte d'Ivoire, la France et les États-Unis, pour une expérience qui est aussi une réflexion sur des sujets polémiques aujourd'hui, l'identité, l'intersectionnalité, le racisme, l'indigénisme. Écrit à la première personne contre toutes les conventions universitaires, il s'agit de raconter un parcours qui révèle aussi bien la difficulté à construire cette identité qu'à faire advenir les Black Studies, les études noires en France. Cette réflexion sur l'inscription des êtres, des corps, des femmes et des hommes noirs dans une histoire particulière ne peut être menée, selon Maboula Soumaoro, qu'à partir d'une histoire personnelle. Un livre d'une grande actualité, là aussi, enfin, avant le coronavirus, on se répète, Géraldine Mosna-Savoie.
Alors moi, j'ai beaucoup aimé lire ce livre. En fait, je trouve que c'est dans sa forme un texte qui, voilà, ne tombe pas des mains parce qu'en fait c'est un texte de recherche, on va dire, ou mais qui est à la première personne. Ce qui est intéressant, en fait, c'est se poser la question que je trouve vraiment passionnante moi toujours quand on fait de la philo ou dans les sciences sociales ou dans tout n'importe quel domaine de recherche. Quelle est la place du jeu quand on fait de la recherche, mais plus précisément du jeu JE, et plus précisément en fait quelle place donner en fait à son histoire quand on est soi-même, quand on est soi-même un objet de son étude. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une question qu'elle se posait tout au long de son texte. Alors, elle rappelle comment elle a son parcours, vous l'avez dit, elle rappelle ses origines, elle rappelle aussi, à travers un certain nombre d'anecdotes, parfois l'espèce de manière dont on lui rappelait en fait son identité. Alors, est-ce que c'était son identité de femme noire? Est-ce que c'était son prénom aussi, qui, ou son nom, qui ont beaucoup interpellé les profs qu'elle a eus ou les rencontres qu'elle a pu faire. Elle parle notamment d'un plateau télé où elle a été interpellée par une femme qui n'est pas nommée mais qui lui aurait dit « publie ta thèse ». Donc elle parle en fait de toutes ces confrontations qu'elle a eues avec le monde extérieur et qui lui ont demandé de dire d'une certaine manière qui elle était, de se prononcer sur son identité, sur qui elle était. Et elle revient en fait là-dessus en disant « mais finalement, comment on peut dire ? Mon espace géographique est complètement explosé. La langue française n'est pas la langue maternelle, ça n'est pas la langue de ma mère. Dans quelle langue écrire ? Aux États-Unis, on lui a rappelé qu'elle était noire, la race est survisible. Elle nous dit en France, au contraire, la race est niée. Donc ce que je trouve intéressant quand on lit ce texte, c'est que ce récit, en fait, construit son propre sujet d'étude et est en construction. Mais c'est aussi la limite, je crois, quand même, de ce livre, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on se demande quel est l'angle. Alors, est-ce que c'est de réfléchir, comme vous l'avez dit, sur l'absence de Black Studies en France ? Est-ce que c'est de dire qu'il y a un racisme ordinaire ? Est-ce que c'est le fait de dire que l'identité est multiple ? Est-ce que c'est le fait de dire que quand on est chercheur, on peut pas dire « je », mais on a quand même envie de dire « je », alors quelle place lui donner ? Voilà, j'ai été un petit peu perturbée tout au long de ma lecture, même si j'ai apprécié d'accompagner en fait la voix de l'autrice. J'ai trouvé que j'étais un peu en manque de « quel est l'angle, qu'est-ce qu'on veut me dire ?»
Oui, Joseph Confavreux, cette idée selon laquelle je constitue mon propre sujet, ce rapport entre vécu et production d'idées, s'inscrit aussi dans une histoire intellectuelle, qui est largement une histoire intellectuelle outre-Atlantique, que rappelle Maboula Soumaoro, qui est allée faire ses études aux États-Unis, qui est spécialiste de la question noire aux États-Unis, et c'est vrai que c'est assez central dans sa réflexion.
Il n'y a pas de problème d'angle, c'est-à-dire que elle part vraiment de son vécu et que sur des sujets comme ça, elle dit on ne peut pas faire autrement. Hein, elle dit qu'il y a certains débats, qu'ils soient intellectuels ou politiques, peuvent parfois résonner en moi, dans ma chair, dans mon corps, dans ma psyché et mon vécu personnel et ainsi finir dans ma recherche. Et elle est obligée de partir de cette expérience corporelle, et que là, le passage par les États-Unis lui a permis, comme elle dit, de devenir noire, ce qui est quand même assez intéressant pour quelqu'un que tout le monde, enfin en tout cas beaucoup de gens, identifiaient d'ores et déjà comme noire, mais elle, il lui a fallu faire ce détour donc de l'autre côté de l'Atlantique, par ce triangle constitué par les États-Unis, la France et l'Afrique, pour se trouver une identité. Moi, je trouve que quand même son parcours est hallucinant. Hein, il faut bien dire, c'est non seulement, c'est vraiment une transclasse dans le sens que donne Chantal Jacquet à ce terme, c'est-à-dire qu'elle vit dans l'extrême précarité, hein, mère isolée, recours à la banque alimentaire, coupure d'électricité. Enfin, on est vraiment de quelqu'un qui, dont heureusement la famille croit aux études et réussit à s'élever dans la sphère intellectuelle. Donc quand après on lui reproche parce qu'elle est noire, au fond on lui dénie un peu sa condition d'intellectuelle, par exemple en lui demandant mais pourquoi votre thèse n'est pas publiée sur un plateau de télé, qu'elle en fasse quelque chose. Je trouve ça intéressant parce qu'elle a quand même subi, c'est-à-dire que comme elle s'appelle Maboula, c'est confondu avec Bamboula, ses directeurs de thèse, directrice de thèse lui demandent de changer de sujet parce que vraiment c'est des sujets américains. Enfin, elle a quand même vécu des choses
racistes, même des sujets racistes.
Ouais, des sujets racistes, enfin on va y revenir. Mais c'est vrai que moi je pense que le problème c'est que c'est une côte mal taillée entre l'essai. C'est-à-dire que des fois on aurait plus envie d'en savoir plus sur ces travaux de recherche qui ont l'air passionnants. Et on n'en sait quasiment rien, elle donne juste les thèmes. Et l'autobiographie dont ça n'a pas non plus la chair parce que c'est une écriture qui est un peu froide. Et puis elle n'a peut-être pas non plus l'œuvre et la vie qui supposerait qu'on puisse déjà faire son autobiographie.
Elle est jeune, hein, voilà.
Oui, voilà. Mais du coup c'est ça. Il me semble que là il y a quelque chose d'un peu mal taillé, on ne sait jamais si on est dans l'essai ou dans l'autobiographie. Et il manque un peu des deux.
Je suis précisément à l'inverse de Joseph. Je trouve que j'adore justement cet entre-deux-là parce que je trouve qu'on n'est pas obligé sur la forme de se prononcer aussi fermement dès le début, de dire bah là ça va être un essai. Ah ben non, en fait c'est de l'autobiographie. J'aime beaucoup cette idée d'être entre les deux. Au début elle dit je cherche une langue dans laquelle m'exprimer, et à la fin elle dit je décide d'être noire. Et on voit au fur et à mesure du texte, je l'appelle texte comme ça, j'évite de me déterminer dans un genre ou dans un autre, on voit qu'au fur et à mesure du texte, Maboula Soumaoro raconte et se dessine au fur et à mesure. En revanche, là où je suis pas d'accord non plus avec Joseph, c'est que à l'inverse, je trouve qu'il n'y a pas d'angle. C'est-à-dire que est-ce que le jeu est un angle ? C'est-à-dire qu'on peut se poser la question de quel est le jeu, mais encore faut-il l'ancrer quelque part. Alors est-ce que c'est le corps ? Ou alors, et alors là c'est très intéressant et on peut en parler, est-ce que justement il n'y a pas d'angle, ou alors ce que vous reprochez Joseph sur cette forme mal taillée, est-ce que c'est parce que le sujet justement est flottant, est indéterminé ? C'est très intéressant en fait de se dire que peut-être que ce texte, en fait, porte sur l'indétermination, sur le fait de ne pas forcément avoir à se prononcer ni sur son identité, ni sur son écriture, ni sur un angle.
Ouais, je voudrais citer quand même cette phrase de Maboula Soumaoro dans cet ouvrage, hein, Le triangle et l'hexagone, publié à La Découverte. « Je renonce à cette distance dite critique et à l'illusion de la scientificité neutre et objective, tout en laissant de côté les accusations de non-rationalité et d'incapacité à raisonner et analyser. Et plus loin, je considère ainsi que mon être, avec ses sensations et ses sentiments, constitue la seule réalité qui existe et dont je sois certaine. » Et donc évidemment, Joseph Confavreux, quand on lit ça sous la plume d'une universitaire, on se demande quelle place il reste pour les sciences sociales, et on se demande, voilà, quelle est la fonction de ce jeu JE.
Encore une fois, j'ai l'impression que Géraldine surjoue le désaccord, parce que moi, je dis pas que l'entre-deux me gêne, au contraire, il pourrait m'intéresser, mais je trouve qu'on n'a pas assez d'analyse, on n'a pas assez de ces sujets qui sont passionnants, hein, sur le nationalisme noir, ce mouvement américain, comment certains mouvements ont imaginer un dieu noir, enfin voilà, c'est sur ce sur lequel elle a travaillé. Elle en donne juste quelques éléments, et moi j'aimerais bien en savoir plus. Et j'aimerais bien en savoir plus aussi sur sa vie. Elle parle de sa de son rapport à la langue maternelle qui n'est pas la langue de sa mère, mais on a quasiment rien sur sa mère, sur comment ça se passait à la maison. Enfin voilà, c'est pas l'entre-deux que je lui reproche, c'est que je trouve que c'est un peu sec en matière d'autobiographie et pas assez poussé en matière d'analyse. En gros, c'est ça, parce que par exemple, quand on sous-titre son livre Réflexions sur une identité noire, elle évoque un moment le livre de Pape Ndiaye sur la condition noire. Elle passe complètement sous silence les réflexions de Norman Ajari, qui avait fait ce livre, à mon avis, très important, même si on peut contester certaines analyses, La dignité ou la mort, qui parle, lui, d'une essence noire, hein, qui serait pas une nature noire. Donc Norman Ajari, un des intellectuels, on va dire, proche, même si j'aime pas ce terme, des indigènes de la République, qui avait fait ce livre à La Découverte l'an dernier. Et elle est un peu entre les deux, une identité. C'est plus qu'une condition et c'est moins qu'une essence. Mais voilà, là, il y a un vrai sujet immense de savoir qu'est-ce qu'on fait de ça, sur lequel j'ai l'impression qu'elle se contente de dire, bah voilà, moi, finalement, j'ai découvert que j'étais noire pour, alors bon, voilà, elle donne ses raisons personnelles. Par exemple, elle ne met pas du tout en discussion ni Pape Ndiaye, ni Norman Ajari. Et là, ça me semble bizarre. C'est là où je dis que ça me semble pas aller assez loin dans l'analyse de ce qu'elle fait à partir du jeu, et ce qui est pas du tout ce que je lui reproche. Au contraire, je trouve ça très intéressant.
La citation que vous avez faite, Raphaël, finalement, on pourrait dire que c'est très suffisant, en fait, de partir de ça, de ses propres sentiments, de sa propre, de décider que ce qu'on voit, ce qu'on est, ou ce qu'on décide d'être, constitue la seule réalité. Moi, je trouve que c'est un parti pris, qui est frappant, qui est super,
qui est bien peu scientifique, vous
Descartes l'a fait. Descartes l'a fait. On lui a pas dit qu'il manquait de scientificité. Donc, moi, je suis pas, c'est pas ça, en fait, qui peut me poser problème. C'est, alors, effectivement, plutôt d'aller plus loin dans un sens ou dans un, mais je crois même pas dans un sens ou dans un autre, en fait. Mais effectivement, plus nous dire, par exemple, quand elle fait part de ses mésaventures universitaires, quand sa directrice de mémoire refuse deux fois ses sujets de mémoire, une fois qu'elle est revenue des États-Unis.
Et qui est donc un sujet sur ce fameux nationalisme noir, ce black nationalism, voilà, qui existe aux États-Unis, porté notamment par Malcolm X, pour donner une figure connue ici, de ce côté-ci de l'Atlantique, et dont sa directrice de mémoire lui dit, c'est un non-sujet, il n'y a pas de nationalisme noir, parce qu'il n'y a pas de nation à proprement parler noire, avec une approche de la nation évidemment marquée par l'histoire française.
Et elle lui dit même que c'est un sujet raciste. Qu'elle est raciste. Alors là, Maboula Soumaoro fait l'expérience, se dit, mais c'est le monde à l'envers. On me dit que je suis raciste, alors que, en fait, je me suis rendu compte que j'ai noir, que j'ai envie de travailler là-dessus. Et c'est pas parce que je travaille là-dessus que je suis complètement d'accord avec ces thèses-là. Donc c'est très intéressant quand elle raconte ces mésaventures-là, ou quand elle raconte, par exemple, que elle a eu affaire à une forme de défiance, où on l'a ramenée à ses origines. Et là, elle se dit, mais c'est quoi d'ailleurs mes origines, en fait, je ne sais pas. Donc moi, la manière dont elle raconte ça, je trouvais assez frappant. Alors, est-ce qu'elle a voulu être juste du côté de l'anecdote? Ça, c'est un petit peu la limite. C'est-à-dire, est-ce que c'est juste des anecdotes? Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui, en creux, se dessine de très fort, qui est, en fait, c'est le rapport à l'autre. Qu'est-ce que me dit l'autre du jeu que je suis? Et est-ce que je ne suis qu'un jeu et je me dois m'en tenir à cette seule réalité? On voit bien que c'est ce hiatus-là, cette tension-là qui est présente dans cet ouvrage, mais qui effectivement n'est peut-être pas assez mise en œuvre, dramatisée, ou alors elle l'est à travers des anecdotes et des événements trop éparses pour qu'on suive vraiment un fil conducteur.
Alors, il faut s'arrêter un instant là-dessus, Joseph Confavreux, parce que c'est probablement ce qui ancre ce livre dans l'un des débats intellectuels et même politiques, et même dans la sphère publique qui court aujourd'hui, et qui est cette question de savoir si on fait face à une forme de séparatisme, s'il y a un indigénisme qui est un antiracisme raciste, qui réactive une forme de racisme. C'est vrai qu'on l'entend beaucoup. Il y a eu des pétitions, notamment, je pense à cette tribune dans l'Express contre les études postcoloniales à l'université, demandant tout bonnement et tout simplement leur interdiction. Donc on voit bien qu'il y a là une tension. Et le livre de Maboula Soumaoro permet au moins de comprendre et de dépasser un certain nombre de préjugés qu'on peut avoir contre ces types de positions qui sont les siennes.
Oui, parce qu'on voit que c'est assez mesuré ce qu'elle dit au fond. C'est que par rapport au fantasme de la prise de possession indigénisme ou décoloniale de l'université, bon bah voilà, déjà on voit que c'est quand même pas si facile qu'on d'intégrer l'université française quand on a un parcours comme celui de Maboula Soumaoro, et que elle est pas sur des positions totalement radicales. Ce qui est intéressant, c'est que précisément elle étudie dans sa thèse des personnes qui aux États-Unis, notamment au début du XXe siècle, ont eu ces positions radicales. Et du coup, c'est très intéressant de les comprendre. C'est-à-dire le nationalisme noir qui était fondé sur l'idée d'un séparatisme racial, qui prenait l'émigrationnisme, c'est-à-dire qui disait au fond la démocratie raciale ne se fera pas aux États-Unis. Donc il faut émigrer soit dans des nations noires comme aux Amériques, Haïti, ou alors dans le continent africain, au Libéria ou éventuellement en Éthiopie. Donc ça c'est assez passionnant. Mais on voit bien la manière, elle cite un mail quand même hallucinant qu'elle reçoit d'un probable collègue, c'est un mail anonyme, qui parce qu'elle travaille...
Mais elle a retracé l'origine du mail et elle voit qu'il est
vient de sa propre université, et c'est glaçant. C'est comme si le fait d'étudier des séparatistes noirs faisait qu'elle était la représentante de ce mouvement séparatiste de Black Nationalism. On marche sur la tête dans l'université française vis-à-vis de ce que sont les études postcoloniales, qui sont à remettre à leur place, qui sont pas l'alpha et l'oméga de la recherche, mais qui sont pas
qui
du
sont
tout le cheval de Troie en train de saper les fondements de la République française.
C'est intéressant là ce que dit Joseph, parce que effectivement on voit que l'université marche sur la tête, parce que travailler sur un sujet, ça voudrait dire que on est de fait d'accord en totale empathie, conviction avec ce qu'on travaille. Et en même temps, il faut aussi se demander, parce que c'est aussi ça qui l'intéresse dès le départ, c'est de se dire comment on peut étudier un objet dont on a l'impression, enfin, être son propre objet d'étude, en fait. Elle se pose cette question-là. Donc, on voit bien que la limite entre les deux, et ça fait partie de ce fil conducteur, ou du moins de ce sillon que j'aurais voulu qu'elle travaille peut-être plus profondément, entre le jeu ou les autres, ou un objet d'étude extérieur, ou alors j'en fais partie. Et on voit bien qu'il y a quelque chose en tension là-dedans. Comment on peut ne pas être d'accord avec ce qu'on étudie, et en même temps se dire, ben, en même temps, j'étudie des choses qui m'affectent, me touchent, ont traversé mon histoire. Ça ne veut pas dire que je suis pleinement consciente, d'accord, mais comment en fait on peut à la fois être, et ça revient à la question de départ, je trouve, de ce jeu, quelle place a le jeu dans une chose, dans un travail de recherche neutre, abstrait, soi-disant éloigné de nous.
Mais juste un petit point là-dessus, c'est que quand Pierre Bourdieu fait son esquisse pour une auto-analyse, ou quand n'importe quel historien va faire son égo-histoire, par exemple Maurice Agulon, on va pas lui dire, mais comment ça se fait que t'aies travaillé là-dessus? Est-ce que tu n'étais pas toi-même le vecteur des thèses véhiculées par les paysans du Béarn, ou je ne sais quoi. C'est-à-dire que ce qui est complètement une banalité dans la recherche, c'est-à-dire l'ego histoire, l'ego analyse, c'est-à-dire comprendre pourquoi on s'intéresse à son objet d'étude et dans quelle mesure son intérêt personnel peut avoir alimenté la recherche. Ça ne veut pas dire l'avoir trompé. Et inacceptable pour quelqu'un parce qu'elle a la peau noire.
Avec ce détour presque nécessaire, on citait tout à l'heure Pape Ndiaye qui a écrit ce livre un peu fondamental, La condition noire, qui était publié en 2008 chez Calman Levy, qui a interrogé la possibilité justement de parler d'une condition noire de France, avec cette idée assez forte que les Noirs en France, puisqu'il y a beaucoup d'entretiens, veulent à la fois être invisibles dans la société, c'est-à-dire ne pas être stigmatisés pour leur couleur de peau, mais en même temps visibles pour ce qu'ils sont et pour la façon dont ils sont inscrits dans l'histoire française. Et on voit que plus de 10 ans après, 12 ans après, on en est toujours un petit peu au même point, en tout cas si on lit Maboula Soumaoro dans ce livre, qui est elle aussi obligée de faire ce détour par les États-Unis, ce qui lui vaut l'accusation d'américanisation. C'est-à-dire, on a toujours l'impression que la réalité américaine est très différente de la nôtre. Or, ce que nous dit Maboula Soumaoro, c'est que être noir en France, c'est aussi s'inscrire dans une histoire postcoloniale et même néocoloniale, dit-elle, qui est propre, là, pour le coup, à la France, qui n'est pas l'histoire de l'esclavage, par exemple, qui a marqué les États-Unis, même si, enfin, voilà, il faudrait en discuter, par exemple, pour les colonies, en tout cas, pour les Antilles françaises, mais restons sur l'Hexagone, puisque c'est le triangle et l'Hexagone qui intéressent Maboula Soumaoro, Joseph Confavreux, sur cette idée, un petit peu aussi, cette critique d'américanisation de la pensée, et on l'a vu plus récemment aussi avec des histoires de moralisation, de bien-pensance, enfin voilà, ce sont des choses de politiquement correct, ce sont des choses qu'on entend.
Oui, bon, ça fait longtemps que notamment les départements d'études postcoloniales américains incarnent aux yeux d'une frange républicaniste et laïciste de l'université française le mal absolu.
Ça touche aussi le féminisme maintenant, manifestement.
Voilà. C'est vrai. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand elle raconte que voilà, son détour par les États-Unis lui permet de se dire, mais comment j'ai été noir en France? Puisque j'ai quand même été noir, même si je ne me définissais pas comme tel. Et elle raconte, et ça, moi, je pense que j'en avais pas perçu la force, que le rap a été absolument fondamental dans sa prise de conscience. Elle dit que jusqu'aux années 90 et la consolidation de la scène indépendante du rap français, il n'avait existé aucun mot, aucune parole, aucun discours, ni aucun espace entre mes parents et la France pour décrire cette expérience qui pourtant était mienne, noire et française. Tout est dans le « et ». Et là où aussi il me semble très intéressant ce détour par les États-Unis pour comprendre la France, et inversement, je pense qu'elle pourrait faire le même livre sur pour comprendre les États-Unis depuis la France, c'est quand elle raconte qu'au fond, ce qui a été confortable pour elle aux États-Unis, c'est d'être noire mais française. C'est-à-dire qu'elle incarnait aussi la pensée française, le chic français, et que elle dit, elle a une phrase intéressante. Elle dit chaque nation a son noir et que c'est plus facile d'être noir américain en France que noir français en France et noir français aux États-Unis que noir américain aux États-Unis.
Oui, on n'est jamais. En fait, c'est très intéressant. Elle dit en fait, on n'est jamais à sa place. C'est-à-dire qu'en tant que noir, on n'est jamais à sa place en France. On n'est pas à la bonne place, mais par contre, quand on est française noire aux États-Unis, on est bien, etc. Enfin,
Joseph, c'est ce qu'elle appelle la charge noire.
La charge raciale aussi, elle parle de ça à la fin, qui est un terme qui est très fort. C'est un terme qu'elle veut explorer. Alors on se demande, effectivement, est-ce que elle a... Cette charge raciale, en fait, c'est vraiment un concept intéressant et il arrive à la fin, en fait, et on a envie qu'elle effectivement déplie ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire charge raciale? Est-ce que elle a envie d'endosser cette charge-là? Est-ce qu'en fait, on lui a imposé? Est-ce qu'on l'a chargé? Est-ce que c'est pesant? Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue dans ces termes-là, et effectivement, ça arrive à la fin. Mais sur cette idée, quand même, de dire que on n'est jamais à la bonne place, c'est très intéressant parce qu'en fait, ça revient à ce qu'elle dit dès le départ. C'est-à-dire que quand elle dit son livre, le sous-titre, c'est Réflexions sur l'identité noire, on a l'impression que c'est quelque chose de figé et de géolocalisé. Puis finalement, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est complètement éparpillé. Elle prend beaucoup cette forme de la diaspora, d'ailleurs. Elle s'intéresse beaucoup à ce terme-là. Et je trouve que c'est très intéressant. Et la charge raciale vient contrebalancer ça. C'est-à-dire que la charge va être quelque chose d'un poids, alors que la diaspora va être quelque chose de l'évaporation qui va se disperser. Et cette mise en balance des deux me semble très intéressante.
Oui, avec cette réflexion sur le terme de diaspora, puisque finalement parler de diaspora noire, diaspora africaine, voilà, elle réfléchit aussi sur la différence. C'est peut-être un peu impropre, en tout cas il faut le redéfinir, parce que c'est une diaspora qui ne se définit pas forcément par une communauté autre que son phénotype, pour reprendre l'expression très scientifique qu'elle utilise, qui n'est pas seulement la couleur de peau, mais l'ensemble des caractéristiques physiques. Voilà, c'est vrai que Maboula Soumaoro a cette réflexion sur la notion de diaspora aussi.
Ouais, je trouve que ça, c'est un des moments où le livre est le plus intéressant, parce qu'elle va justement, elle va un peu loin dans l'analyse. C'est-à-dire que il y a des gens qui se sont opposés effectivement à l'utilisation de ce terme parce que ça n'avait pas la cohérence historique qu'elle avait par exemple pour les Arméniens ou les Juifs, hein, de parler de diaspora. Et elle répond que, parce que déjà, est-ce qu'on dit diaspora noire ou africaine, hein, c'est tout un débat. Et elle explique que les spécialistes de la diaspora noire africaine ont répondu d'une seule voix: la diversité des espaces, des langues, des cultures est précisément ce qui constitue l'unité des populations concernées. Bon, c'est un peu une pirouette, mais ça montre bien quand même que elle, ce qu'elle dessine, hein, c'est ce qu'elle appelle sa trajectoire africana, c'est-à-dire ce qui en elle vient de l'Afrique. Et je trouve ça très intéressant quand elle raconte quand même, elle est jeune, qu'elle a été élevée, elle, vraiment dans l'idée du retour. Et qu'elle dit à la fois par sa famille, hein, qu'une famille ivoirienne très traditionnelle, et elle dit d'une certaine manière par la République qui considérait que à l'époque, les immigrés étaient des travailleurs immigrés, donc quelque part destinés à un jour rentrer chez eux. Et donc elle a toute une réflexion sur, ce serait quoi ce chez moi? Juste pour quand même, puisqu'on arrive vers la fin, dire que c'est un livre qu'il faut, enfin là, on passe on en a fait quelque chose de très sérieux, parce que c'est un livre sérieux qui a quand même des moments assez drôles, hein, quand elle raconte que pendant tout un moment elle était comparée à Ramayad, puis 10 ans après elle est devenue Sibeth Ndiaye. Enfin, c'est un livre qui ne s'interdit pas l'ironie, la légèreté. On est sur des questions très personnelles, très dures parfois, et des questions très politiques, mais il y a un ton qui parfois tombe très juste.
Oui, elle sait trouver une forme d'humour et de distance, en effet, dans ce livre, Maboula Soumaoro, sur des questions, comme je le disais, qui sont très inflammables en ce moment. Le triangle et l'hexagone, c'est donc le titre de ce livre, sous-titré « Réflexion sur une identité noire », et c'est publié aux éditions La Découverte.
L'instant critique.
L'instant critique, dernière séquence de cette émission. Bon, bah, ce sera des livres, hein, puisque ni spectacle, ni visite de musée, évidemment, pour vous, ce week-end ou dans les jours à venir, Joseph Confavreux.
Oui, alors des spectacles très mauvais, avec moins de 10 personnes, mais on s'est dit que c'était pas l'idée de les conseiller. Donc, moi, pour cet instant, je reviens à mon attraction pour les revues, hein, qui n'est pas uniquement liée à la revue du Crieur, dont le dernier numéro est vraiment un des meilleurs. Mais,
avec une nouvelle formule, non?
Une nouvelle formule, numéro 15. Donc là, moi, je vous parle de la revue critique, hein, fondée en 1946 par Georges Bataille et publié par les éditions de Minuit. Alors ils sont au numéro 872-873, un respect, le Crieur n'en est qu'à ce qu'on son 15e numéro. Et ce numéro est consacré à l'Inde colossale et capitale, partant du constat que ce subcontinent n'est en France jamais considéré comme le continent politique, intellectuel, social qu'il est pourtant. Que les regards français, écrivent les auteurs, se soient détournés de ces royaumes lointains tombés dans l'escarcelle britannique, on peut le comprendre, mais que perdure jusqu'à maintenant cette indifférence, voilà qui est plus surprenant et pour tout dire choquant. C'est choquant évidemment quand on rappelle les chiffres, hein, une population de près d'1,4 milliard d'habitants, un PIB qui dépasse le nôtre, des milliardaires en série et des dizaines de millions de pauvres. Mais pour revenir au titre, hein, de cette revue critique, l'idée c'est pas simplement de montrer que l'Inde est un colosse, mais que c'est un pays capital, capital non seulement pour l'avenir de la planète, puisque hein, les déchets dangereux par exemple, ils convergent de partout, mais aussi capital pour l'avenir politique et sociétal du monde, dans la mesure où il présente aujourd'hui le double visage d'un creusement inouï des inégalités et d'une exacerbation délibérément entretenue des conflits communautaires, dont on a eu quelques aperçus et dont les récentes attaques et tortures, hein, contre les musulmans à Delhi nous ont donné malheureusement un aperçu encore plus fort. Alors pour prendre le chemin de l'Inde d'aujourd'hui, pour se confronter à ce géant à la fois terrifiant et fascinant, la revue critique a décidé, c'est intéressant, de se focaliser sur ces villes. Il y a New Delhi bien sûr, mais Nagpur, Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad. Les textes sont signés à la fois d'une jeune philosophe très impressionnante qui s'appelle Divya Dwivedi, Arundhati Roy, l'écrivain qu'on connaît, Sanjay Subramaniam, l'historien, ou encore Christophe Jaffrelot.
L'Inde colossale et capitale, c'est donc le titre de ce dernier numéro de la revue critique. Et rappelez-moi le titre de la revue que vous dirigez.
La revue du Crieur, dont le numéro 15 est vraiment, mais vraiment, je trouve le meilleur.
J'avais oublié, Joseph Confavreux. Géraldine Mosna-Savoie.
Alors moi, c'est un livre donc,
de France Culture.
De France Culture, donc pas de revue à promouvoir. Donc Philippe Garnier, je vous parlais du livre de Philippe Garnier qui s'appelle Mélancolie du pot de yaourt, méditation sur les emballages. C'est aux éditions Premier Parallèle. Alors moi, déjà, je conseille ce livre, bah, pour le titre et pour le sujet. Moi, je suis toujours séduite, je suis un peu bébête devant ce genre de titre où le sujet semble insignifiant, banal, mais où en fait on tente de donner une forme de dignité, on en tire des problématiques, on y trouve une forme de poésie. Alors c'est exactement ce que fait Philippe Garnier avec sa mélancolie du pot de yaourt. Il part de tous ses emballages, donc les pots de yaourt, les boîtes de conserve, les tubes de dentifrice, l'enveloppe d'une ampoule électrique, donc tous ces emballages qui nous polluent, qui peuplent nos rayons, mais qui peuplent aussi nos imaginaires. Ça c'est très intéressant, c'est tout le problème. Les emballages sont futiles, mais ils sont quand même une part essentielle de nos vies. Alors par exemple, on associe notre enfance à telle boîte de céréales, on s'est tous arraché les cheveux à tenter d'ouvrir une boîte, on se demande pourquoi il y a du plastique autour des fruits bio ou des légumes bio.
Et alors non, j'ai une réponse à ça, parce qu'il paraît qu'il faut pas que ça touche les autres fruits et légumes qui ont des pesticides. Ouais.
Effectivement, mais donc dans toutes ces petites histoires banales, Philippe Garnier nous dit qu'il joue quelque chose de fondamental, comment on associe une apparence à un objet, donc c'est la question de l'apparence et de l'être. Voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de travaux sur des objets négligés ou méprisés. On peut penser au système des objets de Baudrillard ou alors même au philosophe Dagonier sur les déchets, qui était vraiment important. Donc on retrouve un petit peu cette idée-là.
Mélancolie du pot de yaourt aux excellentes éditions Premier Parallèle. C'est donc le livre de Philippe Garnier qu'on va offrir aussi à Hervé Gardette. Vous savez, Hervé Gardette qui fait la chronique le matin sur France Culture et qui s'est lancé dans un défi zéro déchet. Voilà, Avis Critique, c'est terminé. Attaché d'émission aujourd'hui, c'était Catherine Donnet, à la réalisation Vanessa Nadjar et à la prise de son Xavier Lévesque. Vous pouvez évidemment réécouter cette émission, la télécharger, vous abonner au podcast sur la page d'Avis Critique sur franceculture.fr. Dans quelques instants, Jukebox.